Bonjour, la France insoumise Loire-Atlantique a organisé au cinéma Le Concorde à Nantes la projection de Brix, un documentaire réalisé par Quentin Ravelli. Ce film traite de la crise du logement en Espagne liée aux crédits immobiliers toxiques. Qu'est-ce que la réalisation d'un film apporte aux sociologues ?
Le film, ça permet d'apporter des éléments, peut-être que les livres de sociologie ou de sciences humaines en général peuvent pas forcément aborder, un certain rapport sensible aux choses, une logique des émotions, une construction narrative qu'il n'y a pas forcément dans des ouvrages plus théoriques. Et après, c'est vrai qu'avec cette espèce de boom de la culture de l'image, ça devient de plus en plus facile d'attraper une caméra, de se mettre à aller filmer ici ou là, et je pense que le cinéma a pas mal de choses à apporter. Hein. Il y a des courants, hein, celui de l'ethnographie visuelle par exemple, qui est assez développé. En sociologie, ça allait un peu moins, mais je pense que c'est vraiment un créneau qui gagnerait à être un peu approfondi. Quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que quand je suis arrivé en Espagne et que j'ai vu ces monticules de briques rouges, cette crise de surproduction, ces mouvements sociaux, je me suis dit qu'un film, ça permettait de transmettre beaucoup de choses que l'écrit aurait peut-être du mal à transmettre, même si j'ai jamais pensé, par ailleurs, qu'un film pouvait vraiment se substituer à un livre. Je pense qu'il faut essayer de construire les choses un peu en écho, en parallèle, mais ne pas essayer de faire croire que par un documentaire, on peut vraiment rentrer dans le détail des explications sociologiques ou historiques sur un sujet. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des allers-retours. C'est un peu ça l'idée de ce film qui est en écho avec un petit livre qui s'appelle « Les briques rouges », « Logement, dette et lutte sociale », qui est sorti un peu au même moment que le film, il y a quelques mois. Et qui raconte lui aussi, mais sous un angle un peu différent, cette grande histoire de la bulle immobilière, de son éclatement et surtout des conséquences sociales assez dévastatrices pour l'Espagne, mais qui ouvre des nouvelles perspectives politiques. Et c'est vrai que vu de l'autre côté des Pyrénées, c'est cet aspect-là qui m'a sans doute le plus intéressé, c'était la grande créativité de ces mouvements sociaux autour de la dette, qui sont un peu comme des ovnis politiques quand on ne connaît pas l'histoire de l'Espagne très précisément.
Chaque exercice a sa rigueur. Alors, comment ça se passe dans la tête ?
C'est intéressant justement parce que c'est vrai qu'une bonne partie de mon travail de recherche en Espagne, c'est faire des entretiens, réaliser des statistiques. Donc j'ai fait passer un questionnaire dans une douzaine de villes en Espagne pour comprendre qui sont ces gens en situation de surendettement qui décident de se mettre à militer. Donc là, il y a tout un protocole classique en sciences sociales où on essaye de cerner quelles sont les variables les plus importantes pour expliquer que les gens se mettent à se mobiliser, quel type de dette les gens essayent d'affronter, voire d'annuler en se battant contre les banques. Et puis, dans tout ça, le film a une approche assez importante, je crois, parce que ça permet de comprendre notamment comment se construit dans une association de lutte contre les banques le passage d'un sentiment de culpabilité individuelle, parfois très enquisté dans des réalités familiales compliquées, dans des populations de gens qui ont migré d'Amérique latine ou du Maroc pour arriver en Espagne au moment du boom de la construction. Comment tout ça est transformé de façon parfois très théâtrale par l'organisation d'un espace de parole propre à l'association en question, donc la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, dont l'ancienne porte-parole a été élue maire de Barcelone il y a quelque temps. Donc on voit très bien en fait comment ces deux choses-là s'imbriquent un peu, hein, d'une certaine manière, et peuvent se compléter. Alors ce qui est sûr, c'est que il y aurait eu une possibilité de faire un film avec une voix off, avec des discours d'experts, avec une volonté explicative très poussée, mais je pense que ça aurait été toujours un peu en deçà de ce qu'un livre pourrait faire. Donc moi, j'ai pour projet d'écrire un livre un peu plus conséquent. J'écris par ailleurs des articles sur la question, mais je m'intéressais au cinéma comme forme qui se suffit aussi à elle-même et qui peut permettre de faire passer des choses par la force du montage et par la logique de l'image. Hein. Et donc j'ai préféré approfondir cet aspect-là de la question plutôt que d'écraser en fait toute la liberté de réflexion, d'interrogation, toute la sensibilité que les spectateurs pouvaient avoir en voyant le film par un discours un peu tout construit, quoi. Donc c'est ça qui m'a à la fois intéressé et désarçonné, c'est-à-dire qu'il fallait déconstruire une manière de réfléchir qui était plus dans mes habitudes, pour arriver à faire un vrai film, quoi. Hein. Et donc, on sort en fait du registre du documentaire sous la forme de la vulgarisation scientifique, ou on sort du documentaire sous la forme du reportage pour faire vraiment un film avec des séquences de cinéma direct. Hein. C'est vraiment ça le cœur du propos dans ce film, Brix. Ça veut dire construire aussi des personnages, des gens auxquels on peut s'attacher, mais sans en rajouter par rapport à ce que la réalité peut apporter elle-même, quoi. Après, évidemment, bon, la façon dont j'ai fait le film n'est pas étrangère à ma formation, c'est sûr. Et il a fallu parfois assister à des dizaines et des dizaines de réunions, à des dizaines et dizaines de manifestations, de séquences parfois très dures où les gens sont expulsés de leur logement, pour arriver à quelque chose d'intéressant cinématographiquement et à faire en sorte qu'on ait quand même globalement une vision générale de ce qui s'est passé en Espagne, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte que ces deux veines-là se renforcent, mais pas faire un film qui soit cousu de fil blanc et où la réflexion aurait été prémâchée par une voix off explicative, quoi. Parce que je trouve pas que ça soit le genre de cinéma le plus intéressant.
Des images de destruction de briques ont été tournées dans l'usine de leur fabrication sans que nous en comprenions directement la finalité. D'autres images, filmées dans l'atelier d'un sculpteur, peuvent nous en indiquer une.
L'intérêt aussi du cinéma, c'est qu'il y ait de l'implicite, des choses qui soient insuffisamment expliquées, ce qui correspond souvent plus à l'expérience vécue des gens. Hein. C'est-à-dire les gens font des choses parfois sans avoir un discours théorique d'explication du pourquoi, du comment de leurs actions. Et en l'occurrence, donc, ce sculpteur, indépendamment de toute commande de quiconque, de ma part ou de la part de quelqu'un d'autre, a décidé de construire des têtes de briques en bronze et d'autres têtes de briques qui fabriquait comme ça à partir des déchets de son entreprise de destruction, une entreprise familiale. Il fait partie de ces millions de personnes qui se sont retrouvées au chômage en Espagne à la suite de la crise de 2008 et qui ont essayé de transformer ce stigmate de la crise, donc ce stigmate du ladrillo. Hein, ladrillo en espagnol, ça veut dire brique. Donc tout le film essaie d'élucider d'une certaine façon les différents sens qu'on peut donner à la brique. Donc une crise de surproduction industrielle, mais c'est aussi un régime de collusion entre des intérêts politiques et financiers assez poussés, sur fond de financiarisation et de privatisation de l'économie espagnole, de spéculation sur le cours de l'immobilier neuf, etc. Donc face à ce désastre, finalement, ce sculpteur-là a décidé d'en faire autre chose. Et d'utiliser à la brique pour dire des choses qu'il estimait un peu plus esthétiques. Et il avait le projet justement de venir dans l'usine de briques pour fabriquer des têtes et les mettre dans le four de l'usine. Et ça s'est pas fait parce que les ouvriers comprenaient absolument pas quelle était cette démarche-là. Mais ça fait partie pour moi des formes d'art brut. Hein. Je pense à ce travail que fait quelqu'un comme Marc Décimo sur l'art brut, notamment, où les gens font de l'art dans leur jardin. Et ça dit quelque chose sur la manière dont on vit la crise, quoi. Voilà. Donc c'est pas du tout une commande, c'est quelqu'un qui au contraire est venu me voir en disant voilà, j'ai vu une partie de votre travail, ça m'intéresse. Et puis on est allé avec la chef opératrice Cécile Baudenès, qui m'a accompagné pendant tout ce travail-là de tournage. On est allé filmer la fabrication de ces sculptures. De parfois 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Et on a notamment filmé la fusion du bronze pour fabriquer des têtes qui représentent un peu l'avenir de l'Espagne, quoi. L'homme nouveau qui surgira après tout ce désastre économique.
Comment ça s'est passé au niveau de l'écriture en amont ?
C'est compliqué parce que l'écriture d'un documentaire, c'est quelque chose de très paradoxal. Il faut... forcément écrire quelque chose, qu'on ne peut pas faire un film en improvisant. Enfin, certaines personnes ont l'idée qu'avec juste la caméra et en traînant au bon endroit, au bon moment, on peut construire quelque chose. Moi, j'y crois pas. Par ailleurs, c'était plus facile pour moi justement d'écrire quelque chose, de partir avec des idées de personnages, de construire un séquencier même, donc en enregistrant des gens pendant des phases de pré-tournage, de repérage, et de transcrire leur dialogue pour avoir l'idée de ce que pourrait donner le film. Et on arrive avec un dossier. Donc la productrice Karine Tchiskovsky de Survivance m'a accompagné dans la deuxième partie de ce travail-là d'écriture. Et on arrive avec un dossier assez complet, assez fouillé, mais évidemment qui va se heurter à la réalité. Et quand on filme des choses dans un documentaire, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Donc en fait, à la fois on a maintenu l'ossature, le squelette de ce dossier-là, et en même temps, toute une partie de ce qu'on avait imaginé a volé en éclats, quoi. Donc moi, j'avais suivi pendant des années, notamment une militante équatorienne qui s'appelle Aida Kinatoa, qui était à l'origine de la construction de ce mouvement de lutte contre les banques à Madrid, autour des gens de quartiers immigrés, issus de la construction, qui ne réussissaient pas à rembourser leurs crédits. Bon, mais finalement, on ne l'a pas du tout gardé au montage. Donc il faudrait trouver un moyen et de faire des petits courts-métrages, peut-être plus sociologiques, là, pour le coup, avec des explications qui permettent aux gens de se livrer par entretien, en fait, qui aillent un peu plus dans le fond de leur expérience personnelle au fil des années, d'entretiens biographiques filmés, d'une certaine manière, pour compléter ça. Mais voilà, le directeur de l'usine de briques, par exemple, était un personnage important, et finalement, bon, bah, le travail de montage a fait qu'on a gardé d'autres choses. Donc voilà, c'est à la fois passionnant parce qu'on découvre plein de choses, et puis c'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est-à-dire, toute une structure scénaristique vole en éclats au moment où... évidemment, ça se fait aussi par aller-retour, hein. Un film comme ça, de 2011 à 2015, il y a eu plus d'une vingtaine d'allers-retours en Espagne. Moi, je me suis installé à Madrid pendant plus d'un an. C'est un travail très long, ce qui fait que l'écriture se fait en même temps que la fabrication du film, quoi. Voilà. Même si là, on a affaire à ce qu'on appelle quand même un film de montage, dans le sens où on accumule tellement de rush. Enfin, je me suis retrouvé avant le début du montage avec environ 200 heures de rush. Beaucoup d'entre elles s'éliminaient elles-mêmes parce que la qualité du son n'était pas suffisante, parce que je savais que ce n'étaient pas les bons personnages, ou parce qu'il y avait trop de matière. On a filmé des heures et des heures et des heures dans les usines de briques. Bon, l'idée, ce n'était pas de faire un film contemplatif sur la fabrication des briques. Ça aurait été intéressant, mais ça aurait été du cinéma expérimental qui n'était pas l'objet là, de ce film-là, quoi. Donc voilà, ça s'est fabriqué un peu comme ça, par des allers-retours entre l'écriture et la caméra, jusqu'à arriver à ce produit fini, quoi, d'une heure 23.
Point de départ, c'est une promesse, on promet une cité moderne.
J'ai découvert en allant dans cette ville qu'on appelle une ville fantôme maintenant.
Et c'est une ville qui a une histoire.
Qui a une histoire, oui et non. C'est-à-dire qu'il y avait un petit noyau, c'est un petit village, en fait, dans la région de Castille, près de Guadalajara. C'est un petit village... qui a une histoire assez longue, mais auquel on a associé une grosse urbanisation prévue pour 30 000 habitants au milieu des années 2000, quoi. Donc ça a complètement changé la vie de ce petit village qui s'appelle Yebes, et auquel a été associée une autre ville qui s'appelle Val de Luz, la vallée de la lumière, pour dire rapidement. Et en fait, dans cet endroit qui n'avait pas d'histoire, les gens ont fabriqué leur propre histoire au fur et à mesure, en se battant pour avoir des services publics, des écoles qu'on leur promettait, pour avoir des transports, parce que l'idée, c'était qu'il y ait une station de TGV, et puis elle n'a jamais vu le jour, cette station de TGV. Enfin, en tout cas, il n'y a pas du tout ce système de navette qui leur aurait permis d'aller à Madrid quand ils le voulaient, en moins d'une demi-heure. Donc en fait, il y a eu dans ce projet, cette espèce de grande fiction d'une ville clé en main, manquaient les éléments les plus importants, quoi. Ce qui faisait que les gens s'endettaient sur des dizaines d'années pour venir habiter là-bas.
Quentin Ravelli, le réalisateur de Brix, est l'invité du magazine.
Donc du coup, ça impliquait une histoire faite de lutte, de transformation, de réappropriation d'un espace, d'un droit à habiter quelque part, avec des expulsions de logements, des gens qui au contraire les squattaient. Donc on voyait bien en fait qu'au cœur de ce bouillonnement politique, il y avait vraiment un projet de société avec ses différentes dimensions pédagogiques, urbanistiques, de santé, etc., dont les habitants ont dû faire autre chose finalement, quoi. Donc c'est l'histoire, en fait, c'est l'histoire du déraillement de grands projets comme ça d'urbanisme que les gens ont réussi à remettre sur d'autres rails que ceux qui étaient prévus au départ.
Et puis, dès que près, pernicieux.
C'est un peu le point de départ. C'est-à-dire, ce qu'on a du mal peut-être à cerner depuis la France, c'est qu'en fait, ces crédits immobiliers ont touché des populations qui, en France, sont locatrices, quoi. La plupart des gens, dans les milieux populaires, en France, sont locataires de leur logement. En Espagne, ce n'est pas le cas. C'est un pays où on estime qu'il y a environ 89% de propriétaires, mais c'est des propriétaires au prix d'une forme de fiction. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires, mais doivent rembourser aux banques, pendant des années, parfois transmissibles à leurs enfants, des dettes qu'ils ont du mal à rembourser, surtout quand ils perdent leur logement, quand ils perdent leur travail avant d'être menacés de perdre leur logement. Donc en fait, à l'origine de cette succession de mouvements sociaux, il y a vraiment cette idée d'une société du tout propriétaire, quoi, hein, qui sert d'élément en fait, de structuration d'une mythologie de la société sans classe, qui était vraiment essentiel pendant la dictature du franquisme, mais qui s'est poursuivi par la suite, et que la financiarisation de l'économie, hein, qui touche en fait tous les domaines de l'économie mondiale depuis en fait avant la fin des années 80, donc c'est la période Reagan, Thatcher, mais même un peu avant, chez Carter, on avait déjà un peu les prémices de cette financiarisation-là, et ben en fait cette financiarisation de l'économie a rendu possible un projet très politique de pacification de certains conflits sociaux qui remontent en réalité aux années 30 en Espagne, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, cette espèce de mélange entre la finance, avec ses mécanismes d'ingénierie financière étonnants, quoi, comme la titrisation, à l'origine de la grande crise économique dont on n'est toujours pas sorti, en France non plus d'ailleurs, avec des aspects plus politiques qui plongent dans les racines de l'histoire militante de l'Espagne.
Il y a une scène où on retrouve trois ouvriers qui discutent au moment du déjeuner.
Cette séquence-là, dans l'usine, qui est celle d'un déjeuner entre trois ouvriers, pour moi, elle est un peu une séquence clé dans le film parce qu'elle permet de comprendre comment se pose le problème de la responsabilité individuelle. Dans le sens où, dans une société fondée sur le surendettement, ce qui est le cas pas simplement de l'Espagne, mais évidemment des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Afrique du Sud, et d'une manière générale, l'endettement même à l'échelle des États progresse, hein. C'est vraiment un type de rapport social propre à la société contemporaine, cette omniprésence de la dette. De voir comment ce problème-là se pose dans une discussion courante entre trois ouvriers qui n'ont pas le même avis. Il y en a un qui accuse d'abord les banques, hein, qui considère que ce sont elles qui ont abusé de leur position et qu'il y a une forme de domination financière qu'il faut dénoncer d'abord et avant tout. Il y en a un autre qui considère qu'en fait c'est la responsabilité de la personne qui signe. Si on signe, bah forcément on est responsable de ce qu'on signe. Et il dit, bah voilà, si on gagne 1 000 euros par mois, on va pas s'acheter une BMW à 300 000 euros, c'est pas possible. Il faut acheter une Fiat Panda ou autre chose. Bon, et il considère que c'est la responsabilité personnelle, individuelle des gens. Et le troisième ouvrier qui aussi, en fait, qui est plus jeune et qui écoute les deux autres, qui a lui-même des problèmes avec son contrat, qu'il a du mal à rembourser, hein, et qui ne sait pas très bien à quel sens se vouer, quoi. Donc il écoute les deux en se posant un peu la question. Donc voilà, pour moi, c'est une manière de montrer qu'en fait, la question de la responsabilité individuelle, du choix individuel, sociologiquement, doit se poser autrement, quoi. C'est pas la question de la liberté, qui est une question un peu métaphysique. C'est comment est-ce qu'on est poussé parce qu'il y a des pressions familiales, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un discours, une idéologie d'État, mais aussi relayée par les banques, par les médias, qui fait que les gens estiment qu'il est absolument nécessaire pour eux de devenir propriétaires, sans quoi leur vie est un échec, quoi. Donc, si on ne met pas en contexte le choix individuel des gens par rapport à ça, à mon avis, on fausse un peu les données du problème, quoi. Donc cette scène-là, elle contraste aussi beaucoup avec les grands mouvements sociaux très collectifs qu'on voit dans le film aussi, mais qui touchent plutôt les gens qui habitent à Madrid et dans sa périphérie. Elle dit aussi, je pense, pas mal de choses sur la façon dont on se représente, la liberté qu'on a de choisir et de s'obliger pour des années à faire des choses en pensant qu'on en a la liberté alors que les choses sont plus compliquées dans le fond.
Vous avez montré la visite à un observatoire dernier cri en le mettant en opposition avec le sous-équipement de la ville. Moi, j'imagine que ces observatoires, ils ne sont pas choisis en fonction de la densité de la population ou des équipements, ils sont choisis parce que ce sont les meilleurs points pour observer le ciel.
Pour que ça soit clair pour ceux qui nous écoutent, en fait, à côté de cette ville fantôme ou dite fantôme, il y a un grand observatoire d'astronomie avec une des plus grandes antennes paraboliques d'Europe qui existait avant la construction de la ville, hein, et que le maire de la ville fantôme essaye d'utiliser pour changer l'image, l'identité de la ville. Parce que tous les médias associent à Val-de-Luz une identité qui est celle du désastre économique et financier de l'Espagne d'aujourd'hui. Et le maire essaye d'attirer des touristes et a cette espèce d'idée étonnante de tourisme astronomique. Mais évidemment, c'est un grand contraste entre une ville dans laquelle il n'y a pas d'école, il n'y a pas encore à ce moment-là de médecins, la bibliothèque à ce moment-là commence à peine à ouvrir, on ne sait pas encore si elle va vraiment ouvrir, etc. Donc, et puis cette espèce de masse de métal qui observe les étoiles avec cette concentration incroyable de haute technologie. Donc ce contraste-là est très étonnant, mais ça dit aussi des choses sur le fait que dans une situation de crise et cette espèce d'état de sidération dans lequel beaucoup de gens se trouvent, ça me semblait important de pas montrer juste, enfin de pas faire un film qui soit exclusivement militant, c'est-à-dire mais un film qui montre aussi que beaucoup de gens, s'ils ne se mettent pas à lutter, c'est parce qu'ils cherchent un autre monde, quoi. Et donc, ce qui m'attirait, en fait, dans ce personnage du maire de la ville fantôme, c'est que lui, il essayait de fuir ce monde-là par l'astronomie, quoi. Et ça raconte une des voies que les gens cherchent dans les moments de crise, qui est celle de s'inventer une autre réalité, parce que celle qu'ils vivent est difficilement supportable, et qu'ils ont du mal à trouver les moyens de lutter collectivement, parfois, quoi. Même si, bon, j'insiste quand même, le cœur du film, c'est quand même de montrer les gens qui se mettent à se battre. Je voulais qu'il y ait autre chose, quoi. Voilà. Cette grande antenne astronomique, c'est aussi quelque chose d'absurde. Moi, j'aime bien dans le cinéma quand il y a quelque chose d'absurde, qu'on n'est pas en train de montrer une litanie de victimes, mais qu'on montre des choses un peu étonnantes, quoi, qui sortent du cadre. Ouais.
La ville est fantôme, mais l'usine est fantôme aussi. C'est très automatisé. On voit très peu d'opérateurs humains. Donc, il y a à la fois le côté désertique d'un monde et puis le côté solidaire du groupe en face. C'est le combat collectif qui fait qu'on va pouvoir annuler la dette.
Dans la construction de l'image du film, il y avait vraiment cette idée d'un contraste entre cet univers très déshumanisé, rempli de machines, assez automatisé, mais qui garde un aspect assez artisanal quand même, et dans lequel l'homme est un peu le travailleur de l'usine de briques qui est un peu isolé, et cette espèce de foule de gens qui se retrouvent pour parler des choses parfois les plus intimes, donc le problème familial qu'ils ont de rupture à cause de la dette qu'ils ne réussissent pas à payer, ou au contraire ils restent ensemble de façon complètement artificielle pour pouvoir payer la dette parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de vivre ailleurs, etc. Donc il y a un contraste entre cette mécanisation, moi qui me plaît pas mal parce qu'il y a une inspiration qu'on trouve dans le cinéma soviétique, chez Tarkovsky par exemple, ou dans un film qui s'appelle Fabrica, qui est sorti plus récemment, mais où on voit comme ça cette espèce d'univers de machine où l'homme n'existe plus, et puis les mouvements de lutte collectif. Mais après, c'était l'idée aussi d'illustrer de façon un peu métaphorique tout ce mécanisme incroyable d'ingénierie financière que les gens essayent de découvrir en luttant, quoi. Donc à la fois, c'est deux réalités qu'on met en contraste, mais l'une permet de comprendre l'ampleur de l'autre. C'est-à-dire, des gens découvrent que leur dette a été revendue, rachetée à des fonds d'investissement américains, donc revendue par des banques à ces fonds de pension là, et donc que leur dette peut circuler dans le monde entier, quoi. Et il y a une espèce comme ça de découverte d'une grande machine financière très abstraite. Et l'intérêt du film, je trouve, c'est de faire redescendre ces grandes notions d'économie politique sur Terre et de montrer qu'elles ont un enracinement un peu concret, quoi. D'où ce retour aussi à la glaise, à l'argile, au feu, à l'air et à l'eau, qui sont les éléments élémentaires de fabrication des briques.
Avec la note happy end, où au moins une famille s'en sort. Enfin, plus ou moins, mais ça aurait pu être pire.
Oui, c'est ambigu parce que elle s'en sort et en même temps elle s'en sort pas complètement. C'est-à-dire la dette de la famille est annulée et paradoxalement elle se retrouve à la rue quand même. Et du coup c'était important de garder cette espèce d'ambiguïté de la réalité sociale sans imposer une interprétation trop forte sur les images elles-mêmes et de laisser les gens se faire leur propre opinion, quoi. C'est-à-dire montrer le réel, montrer qu'il y a un soulagement extrême au fait de voir plus de 100 000 euros s'envoler et donc de remporter une vraie bataille contre la banque et d'en même temps devoir quitter son logement. Voilà, c'est une sorte de victoire douce, amère, qui me semble refléter quand même une partie de la réalité et qui évite ou bien l'espèce de victimisation qui, moi, me gêne. Je trouve pas ça très intéressant dans les films. Et en même temps, l'espèce de discours triomphaliste qui ferait semblant de croire que tout a été gagné. Non, l'Espagne, en fait, est encore à un carrefour, malgré ses presque 10 années de crise. Ça se traduit par des situations comme ça, entre deux eaux, comme celle du personnage de Blanca, qui se bat contre la banque. Donc Blanca contre Bankia.
C'est un cas marginal.
L'idée, c'est pas de faire des statistiques. Là, il faut lire des articles, il faut se renseigner, écrire des livres pour approfondir cet aspect-là. Mais ça n'est pas du tout un cas marginal. Au contraire, c'est très représentatif de dizaines de milliers de personnes qui, se battant contre les banques, ont obtenu des annulations de dettes. Et parfois des annulations de dettes pures et simples, avec la possibilité de rester dans leur logement, de transformer leur statut d'occupant illégal en négociant avec la banque un loyer social extrêmement bas, parfois de 60, 70 euros. Hein. Donc pour des appartements de 3 pièces, c'est étonnant. Et le cas de Blanca est de ce point de vue-là plutôt représentatif de tout un mouvement en Espagne qu'un cas marginal, quoi. C'est aussi pour ça que moi j'ai voulu la filmer, hein. Je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma documentaire, c'est aussi de montrer des grandes structures sociales et pas simplement des cas atypiques ou héroïques, quoi. Le film documentaire permet, contrairement peut-être à la fiction, d'éviter une héroïsation des personnages tout en gardant un vrai attachement pour leur démarche. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais l'idée c'était de faire une bande originale à partir des sons des machines enregistrées dans l'usine, d'en faire des boucles, hein. Donc j'ai travaillé avec deux musiciens, Yann Pitard et Thierry Mazurel, dont la collaboration a abouti à une sorte de bande sonore musicale mi-industrielle, mi-western, on va dire, qui fait parler la brique. Parce que la brique, un peu à la manière du fétichisme de la marchandise chez Marx, est une forme de personnage à part entière. Et ça, c'était l'idée d'en faire une musique propre, c'était une manière de lui donner une voix.
Merci à Quentin Ravelli pour sa libre participation à ce programme, réalisé à l'occasion de la projection de BRICS, organisée par la France insoumise Loire-Atlantique, au cinéma Le Concorde à Nantes.
Le maire, en fait, a décidé de rallier UPyD, donc c'est un parti politique de centre droit, assez classique. Mais avant, le maire faisait partie de ces plateformes de citoyens sans affiliation politique qui ont fleuri un peu partout en Espagne et qui font partie de ce mouvement qu'on appelle le mouvement du municipalisme. Il y a une forme de démocratie directe locale qui garde sous contrôle les mairies et les administrations des municipalités. Et voilà, donc en fait, l'histoire du maire montre aussi l'institutionnalisation de ce type de mouvements sociaux. Donc on part avec des engagements qui viennent vraiment de la population pour se retrouver rattrapés par la logique des partis. Et on le voit dans cette petite ville, comme Podemos n'y a pas vraiment percé, que l'alternance entre le Parti socialiste et le Parti populaire, qui a quand même été vraiment mise à mal par les mouvements sociaux récents en Espagne. Donc, je rappelle que Podemos est devenu une des principales forces politiques de l'Espagne, avec plus de 70 députés au Parlement, etc. On voit bien que cette réalité-là, elle n'est pas arrivée dans tous les petits villages, quoi. Donc, l'histoire de cette commune rurale créée au milieu de nulle part raconte aussi ça, c'est-à-dire la permanence dans la campagne d'une forme de conservatisme politique qui remonte à loin en Espagne et qui n'a pas été balayé par les mouvements sociaux encore.